Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, cette vie. Et au-delà de Christophe Faury, est un essai d'une enquête qui aborde une question centrale et sensible à la conscience, s'éteint, elle avec la mort biologique, ou peut-elle se prolonger? Psychiatre et psychothérapeute, elle auteur, elle s'appuie sur son expérience clinique, notamment au contact de la fin de vie, et sur une vaste littérature de travaux. Des observations et de récits rapportés dans différents contextes. Elle, objectif N, est pas de proposer un dogme, mais d'examiner des phénomènes récurrents, souvent décrits par des personnes ordinaires et parfois par des soignants expériences de mort imminente, vécues de fin de vie. Impression de contact avec des défunts et souvenirs spontanés de vie antérieure chez des enfants, en croisant ces matériaux avec des pistes issues des sciences humaines. De certaines recherches sur la conscience et de traditions spirituelles, Faury invite le lecteur à reconsidérer la vision strictement matérialiste de l'esprit. Le livre se veut accessible, structuré et orienté vers les implications existentielles et thérapeutiques de ces récits. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une enquête clinique sur des récits à la frontière de la mort, le point de départ du livre réside dans un constat de terrain en contexte médical. Et tout particulièrement autour de la fin de vie, des patients rapportent parfois des vécus difficiles à faire entrer dans les catégories habituelles de la psychopathologie. Christophe Faury adopte alors une posture d'autant-qu'auteur recueillir, comparer, replacer dans le contexte et se demander ce que ces récits signifient réellement. Il insiste sur enjeu d'écoute, car beaucoup de témoins décrivent une souffrance supplémentaire lorsqu'ils ne se sentent pas pris au sérieux. Elle, auteur, ne présente pas ses expériences comme des preuves automatiques, mais comme des données humaines répétitives qui demandent une analyse prudente. Cette démarche s'appuie sur une double exigence empathie pour la personne qui témoigne et recherche de cohérence avec ce que l'on sait du fonctionnement psychique et des biais possibles. Le livre se situe ainsi à l'intersection de la clinique, de l'épistémologie et du vécu existentiel. Cette entrée par l'accompagnement et la souffrance humaine ancre le sujet dans le réel, au-delà du sensationnel, et prépare le lecteur à examiner ensuite les familles de phénomènes qui structurent l'enquête. Deuxièmement, expérience de mort imminente contenue, motif récurrent. Et question scientifique, un axe majeur du livre est l'examen des expériences de mort imminente, souvent rapportées après un arrêt cardiaque, un accident grave ou d'autres situations critiques. Christophe Faury s'intéresse à leurs caractéristiques récurrentes telles qu'elles sont décrites dans de nombreux témoignages d'impressions de décorporation, perceptions inhabituelles, sentiments de clarté mentale, rencontres avec des proches décédés ou perceptions d'une réalité non ordinaire. Il s'attache aussi au fait que ces récits peuvent transformer durablement la personne, avec des effets sur la peur de la mort, les valeurs et le rapport à la vie. Elle, auteur, explore la tension entre deux lectures, une lecture neurobiologique qui cherche des explications par le cerveau en situation extrême, et une lecture qui considère ces récits comme compatibles avec l'idée d'être une conscience non réductible à l'activité neuronale. Son propos met l'accent sur la nécessité de distinguer l'interprétation du vécu et le vécu lui-même, et de clarifier ce qui est établi, discuté ou encore controversé. Dans cette partie, l'intérêt du livre est moins de trancher définitivement que de montrer pourquoi ces expériences constituent un défi intellectuel. Elles obligent à revisiter les critères habituels, par lesquels on associe conscience, mémoire et fonctionnement cérébral. Troisièmement, expérience de fin de vie et contact avec les défunts, un continuum de phénomènes. Christophe Faury ne limite pas son enquête aux situations de réanimation ou de danger immédiat. Il consacre une place importante aux expériences rapportées en fin de vie, dans des contextes plus calmes, où la personne reste souvent lucide et communicante. Ces vécus incluent notamment des perceptions de proches décédés, des impressions de présence, ou des scènes intérieures décrites comme apaisantes et préparatoires au départ. Le livre aborde aussi les vécus subjectifs de contact avec un défunt qui peuvent survenir chez des endeuillés et prendre des formes variées et remarquantes. Sensations de présence, signes interprétés comme une communication ou expériences de consolation. L'enjeu pour l'auteur est de traiter ces récits sans les réduire à une simple pathologie du deuil, tout en évitant de les transformer en certitudes doctrinales. Il souligne leur rôle possible dans l'apaisement et dans le sens que les personnes donnent à la perte, en rapprochant expérience de fin de vie et contact post-deuil. Faury propose l'idée de un continuum autour de la mort, où les témoignages décrivent des interactions perçues entre vivants et défunts. Cette perspective éclaire aussi des questions pratiques pour les soignants, comment accueillir la parole sans juger, et comment éviter de renforcer l'isolement du patient ou du proche. Quatrièmement, souvenirs spontanés de vies antérieures, chez l'enfant un dossier délicat. Un autre volet important de l'ouvrage concerne des récits d'enfants affirmant se souvenir de notre vie. Christophe Faury aborde ce thème comme un dossier à la fois fascinant et fragile, car il touche immédiatement à des enjeux culturels, religieux et scientifiques. L'intérêt de cette thématique dans la logique du livre, est qu'elle ne se présente pas comme une expérience proche de la mort au sens médical, mais comme un type de témoignage dit cher, parfois précoce, que certains chercheurs ont tenté de documenter de manière structurée. Fauri en retient est l'idée générale, certains récits paraissent contenir des éléments précis qui, lorsqu'ils sont vérifiés, posent la question de origine de l'information et de la mémoire. Il rappelle implicitement la nécessité d'être prudent face au risque de suggestion, de reconstruction familiale ou de contamination par des récits ambiants. Et l'auteur utilise surtout ce chapitre pour élargir l'enquête si l'on prend au sérieux l'ensemble des phénomènes étudiés. La question est plus seulement celle de un instant autour de la mort, mais celle de une possible continuité de la conscience et de la mémoire au-delà d'une existence individuelle. Le livre ne demande pas d'adhérer à une théorie unique, mais de reconnaître que ce dossier, et s'il est traité avec méthode, vient complexifier le cadre matérialiste simple. En dernier lieu, vers un modèle non réducteur de la conscience-science, spiritualite et limite, au fil de l'enquête. Christophe Fauré propose une réflexion de synthèse « Comment penser la conscience si l'on admet que certains vécus ne se laissent pas expliquer facilement par une production purement cérébrale ?» Le livre met en dialogue des approches scientifiques et des traditions spirituelles, notamment orientales, qui envisagent la conscience comme plus vaste que l'individu. Et l'auteur évoque également des notions parfois associées à la physique moderne, comme la non-localité, non pas pour faire de la physique une preuve, mais pour illustrer que notre intuition ordinaire du réel n'éprise pas ce qui est pensable. Cette partie est centrale car elle montre la prudence nécessaire, la science a des outils puissants. Mais elle a aussi des frontières méthodologiques dès qu'il s'agit d'expériences intérieures, rares ou difficilement reproductibles. Fauré plaide pour une attitude ouverte et rigoureuse à la fois où, elle, on évite les conclusions hâtives. Mais au hal, on n'élimine pas des données simplement parce qu'elles dérangent un paradigme dominant. Le bénéfice intellectuel de cette section est de clarifier les niveaux faits rapportés, interprétations, hypothèses et implications existentielles. Le lecteur est ainsi conduit à distinguer croyances, scepticisme et agnosticisme méthodologique, et à envisager un modèle de conscience qui ne soit pas forcément réducteur sans devenir irrationnel. En conclusion, cette vie. Et au-delà, S adresse à ceux qui veulent aborder la question de la mort et de la conscience sans se limiter à une opposition stérile entre crédulite et réductionnisme. Les lecteurs concernés par le deuil, à l'accompagnement d'un proche malade ou leur propre anxiété face à la mort peuvent y trouver une mise en sens et pour certains un apaisement. Car le livre montre comment des récits vécus sont parfois porteurs de transformation et de consolation. Les professionnels de santé et de la relation d'aide y verront aussi une réflexion utile sur l'écoute, accueillir des témoignages inhabituels peut être un acte clinique important. Condition de garder une éthique de prudence et de non-imposition des interprétations, sur le plan intellectuel. L'ouvrage se distingue par sa forme d'une enquête structurée autour de plusieurs familles de phénomènes, plutôt que par un plaidoyer unique centré sur une seule preuve. Il tente d'articuler littérature, expérience clinique et questionnement de paradigme, tout en assumant que certains points restent controversés. Dans une catégorie souvent marquée, soit par le sensationnalisme, soit par le rejet a priori. Le livre se positionne comme une proposition de travail regarder des données humaines massives et récurrentes, en tirer des questions mieux posées, et ouvrir un espace de réflexion sur ce que signifie vivre, mourir et accompagner. Sa singularité tient à cette combinaison de rigueur narrative, de sens clinique et d'haute ambition philosophique. Si vous souhaitez soutenir Christophe Fauré, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.